Nos inuisibles prétendus.
Peut-être tentent-ils une double opération. D'un côté, lancer un signal aux Français et de l'autre, renouer les fils éparpillés du noyau allemand qui a été probablement fragmenté par la réforme luthérienne. Mais c'est justement en Allemagne qu'arrive le plus gros embrouillamini. De la sortie des manifestes jusqu'à 1621 environ, les auteurs reçoivent trop de réponses. Je citais quelques-unes des innombrables plaquettes qui avaient paru sur le sujet, celles avec lesquelles je m'étais amusé une nuit à Salvador avec Amparo. Il est probable que dans le tas, il y en ait un qui sait quelque chose, mais il se confond au milieu d'une pléthore d'exaltés, d'enthousiastes, qui prennent à la lettre les manifestes, de provocateurs peut-être qui essaient d'empêcher l'opération, de cafouilleux. Les Anglais cherchent à intervenir dans le débat, à le régler. Ce n'est pas un hasard si Robert Flood, autre templier anglais, en l'espace d'une année, écrit 3 ouvrages pour suggérer la bonne interprétation des manifestes. Mais la réaction est désormais incontrôlable. La guerre de 30 ans a commencé. L'électeur palatin a été vaincu par les Espagnols. Le Palatinat et Heidelberg sont terres de pillage. La Bohème est en flammes. Les Anglais décident de se replier sur la France et d'essayer là-bas. Voilà pourquoi en 1623, les Rose-Croix se manifestent avec leur proclamation à Paris et adressent aux Français plus ou moins les mêmes offres qu'ils avaient adressées aux Allemands. Et que lit-on dans l'un des libelles écrits contre les Rose-Croix à Paris, par quelqu'un qui se méfiait d'eux ou voulait troubler les eaux? Qu'ils étaient les adorateurs du diable, évidemment. Mais comme on ne parvient pas à gommer la vérité, même dans la calomnie, on insinue qu'ils se réunissaient dans le Marais. Et alors? Mais vous ne connaissez pas Paris? Le Marais, c'est le quartier du Temple. Et le hasard fait bien les choses, le quartier du ghetto juif. À part le fait que ces libelles disent que les Rose-Croix sont en contact avec une secte de kabbalistes ibériques, les Alumbrados. Peut-être les pamphlets contre les Rose-Croix, sous couvert d'attaquer les 36 invisibles, cherchent-ils à favoriser leur identification? Gabriel Naudet, bibliothécaire de Richelieu, écrit des instructions à la France sur la vérité de l'histoire des frères de la Rose-Croix. Quelles instructions? Est-ce un porte-parole des Templiers de la troisième génération? Est-ce un aventurier qui s'introduit dans un jeu qui n'est pas le sien? D'une part, on dirait qu'il veut faire lui aussi passer les Rose-Croix pour des diaboliques de 4 sous. D'autre part, il lance des insinuations. Il dit qu'il y a encore 3 collèges Rose-Croix de par le monde, et ce serait vrai. Après la troisième génération, il y en a encore 3. Il donne des indications qui touchent au fabuleux. L'un se trouve en Inde, dans les îles flottantes, mais il suggère qu'un des collèges est situé dans les souterrains de Paris. « Personnellement, vous croyez que tout ça explique la guerre de 30 ans ?» demanda Belbeau. « Sans aucun doute, dis-je. Richelieu tient de Naudet des informations privilégiées. Il veut mettre la main à la pâte dans cette histoire, mais il rate tout, intervient militairement et brouille encore plus les cartes. Cependant, je ne négligerai pas 2 autres fêtes. » En 1619, se réunit le chapitre des Chevaliers du Christ à Tomard, après 46 ans de silence. Ils s'étaient réunis en 1573, peu d'années avant 1584, probablement pour préparer le voyage à Paris avec les Anglais, et, après l'affaire des manifestes Rose-Croix, ils se réunissent de nouveau pour décider quelle ligne suivre. S'associer à l'opération des Anglais ou tenter l'autre voie. Bien sûr, dit Belbeau, ce sont désormais des gens égarés dans un labyrinthe. Qui choisit une voix? Qui en choisit une autre? On fait courir des bruits, on ne comprend pas si les réponses qu'on entend sont la voix de quelqu'un d'autre ou un écho de sa propre voix. Ils avancent tous à tâtons. Et que pourront bien faire entre-temps policiens et hiérosolimites? On aimerait bien le savoir, dit Diotalevi. Mais je ne négligerai pas le fait que c'est à cette époque que se répand la cabale lurienne et qu'on commence à parler du bris des vases. Et à cette époque circule de plus en plus l'idée de la Torah comme message incomplet. Il existe un écrit assidien polonais qui dit « S'il s'était en revanche produit un autre événement, d'autres combinaisons de lettres seraient nées. » Pourtant, bien entendu, les kabbalistes n'aiment pas que les Allemands aient voulu devancer les temps. La juste succession et l'ordre de la Torah sont restés cachés. Et ils ne sont connus que du saint, loué soit-il. Mais ne me faites pas dire des folies. Si la sainte cabale aussi est impliquée dans le plan...
Si plan il y a, il doit tout impliquer. Ou il est global, ou il n'explique rien, dit Belbeau.
Mais Cassobon avait parlé d'un second indice.
Oui, et même c'est une série d'indices. Encore avant que la rencontre de l'année 1584 ne rate,
John Dee avait commencé à s'occuper d'études cartographiques et à organiser des expéditions navales. Et à coquiner avec qui? Avec Pedro Núñez, cosmographe royal du Portugal. Dee joue de son influence sur les voyages de découverte pour le passage au nord-est vers le Cathay. Il investit de l'argent dans l'expédition d'un certain Frobisher qui pousse jusque vers le pôle et en revient avec un Esquimau que tout le monde prend pour un Mongol. Il aiguillonne Francis Drake et l'incite à faire son voyage autour du monde. Il veut qu'on voyage vers l'Est parce que l'Est est le principe de toute connaissance occulte et au départ de je ne sais plus quelle expédition, il évoque les anges. Et ça voudrait dire quoi? Il me semble que Dee n'était pas vraiment intéressé à la découverte des lieux, mais à leur représentation cartographique. Raison pourquoi il avait travaillé en contact avec Mercator et avec Ortelius, grand cartographe. C'est comme si à partir des lambeaux de messages qu'il tenait entre les mains, il avait compris que la reconstitution finale devait amener à la découverte d'une carte et qu'il cherchait à y arriver pour son propre compte. Mieux, je serais tenté de dire plus, comme M. Garamond. Est-il possible qu'à un homme d'étude de son gabarit eût vraiment échappé la discordance entre les calendriers? Et s'il l'avait fait exprès? Dee a l'air de vouloir reconstituer le message tout seul, passant par-dessus les autres groupes. Je soupçonne qu'avec Dee, l'idée fasse son chemin que le message puisse être reconstitué par des moyens magiques ou scientifiques, mais sans attendre que le plan s'accomplisse. Syndrome d'impatience. Le bourgeois conquérant est en train de naître, et se corrompt le principe de solidarité sur quoi reposait la chevalerie spirituelle, si telle était bien l'idée de Dee. Que dire de Bacon? À partir de ce moment, les Anglais s'emploient à la découverte du secret en mettant à profit tous les secrets de la nouvelle science.
Et les Allemands?
Les Allemands, il sera bon de leur faire suivre la voie de la tradition. Ainsi pouvons-nous expliquer au moins 2 siècles d'histoire de la philosophie, empirisme anglo-saxon contre idéalisme romantique.
« Nous sommes graduellement en train de reconstituer l'histoire du monde, » dit Diotta Levi.
« Nous sommes en train de réécrire le livre. Ça me plaît, ça me plaît. »